EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Bonjour Pasteur Philippe, bienvenue à l'émission Vie de foi.
Bonjour et merci de me recevoir, une réelle joie d'être ici.
Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Pasteur Philippe Boulanger de Nice, en France, tu es pasteur de l'église Victoire Centre Chrétien et aussi président du conseil d'administration de REMA, donc les instituts bibliques, REMA en France et puis en fait en Suisse aussi.
En Suisse aussi, la partie francophone, la Suisse romande.
Gloire à Dieu. Et puis vous servez avec ce ministère-là depuis plusieurs années.
Oui, ça fait plusieurs années maintenant que cette école a plusieurs campus en francophonie. Oui. Donc si vous nous regardez d'Haïti, si vous nous regardez du Québec, de France ou de Suisse, et nous espérons prochainement pouvoir aussi ouvrir l'Afrique francophone. Mm-hmm. Donc, il y a deux, les directeurs donc, de REMA Québec et de REMA France et Suisse, John Madden et Ken Taylor, qui sont en train, vraiment dans cette mission-là, d'implanter des centres de formation dans toute la francophonie.
Gloire à Dieu. Ouais. Et cette semaine, on est en train d'étudier un sujet vraiment fort intéressant, l'Alliance par le sang. Et à REMA, vous enseignez certainement aussi un cours hein, sur l'Alliance par le sang.
Absolument. Donc, il y a une leçon. Donc, en général, c'est de 12 sessions de 40 minutes sur un sujet. Donc, okay. Ça permet d'aller en profondeur pendant deux jours et... les étudiants en sortent très édifiés en général.
Bien, gloire à Dieu. Bien, moi, je sais qu'on a des pasteurs dans notre équipe, dans notre campus, et qui fréquentent un des campus de REMA, et puis sont vraiment encouragés, vraiment bénis, bâtis spirituellement. Donc, on dit gloire à Dieu pour REMA qui existe maintenant partout dans la francophonie, ou en tout cas qui s'étend de plus en plus.
Ça se développe bien.
Amen. Gloire à Dieu pour ça. Et puis aussi, vous êtes pasteur là-bas avec ton épouse, Rebecca. Et puis, en plus, tu es papa de deux jeunes filles.
Oui, donc je tiens à saluer l'Église, si l'Église Victoire Centre Chrétien nous regarde. Et puis donc papa de deux filles, Ella et Davina.
Bon, ben gloire à Dieu, un homme béni.
Oui, ça se passe bien, on ne peut pas se plaindre. Non,
aujourd'hui, on va parler le rite de l'alliance de sang hébraïque. Donc c'est tout un sujet glorieux.
Oui, ça sonne un petit peu compliqué au premier abord, c'est vrai. Mais c'est vraiment passionnant. Et pour comprendre un petit peu le rite de l'Alliance hébraïque, c'est vraiment un retour finalement aux racines hébraïques de l'Église et comprendre finalement ce rite-là et comprendre son implication dans la Nouvelle Alliance. Mm-hmm. Et en fait, dans les années 1870 ou 70 pour les Suisses et les Belges, il y avait un journaliste qui s'appelait Henry Stanley. Et Henry Stanley, il était en quête d'un célèbre missionnaire qui s'appelait David Livingstone. Et pour pouvoir progresser en Afrique à l'époque, il a dû donc faire des alliances de sang. Et il a réalisé que grâce à ces alliances de sang, eh ben, ça lui permettait d'avancer un petit peu parce que sinon, sa progression était vraiment freinée.
Mais au départ, il ne voulait rien savoir.
Hein? Ouais.
Mais au départ, il ne comprenait pas trop. Puis après, finalement, il s'est informé. Mais qu'est-ce que ça changerait vraiment si on établissait une alliance par le sang?
Et finalement, on pourrait aussi dire que les missionnaires, en amenant l'Évangile, s'ils avaient amené dans certaines régions du monde, s'ils avaient eu la révélation de l'Alliance du sang, ça aurait été beaucoup plus facile de pouvoir amener l'Évangile, parce que c'est vraiment le mandat que Jésus nous a donné. Et puis, donc Stanley est en quête de Livingstone, et puis il réalise qu'il va falloir qu'il fasse donc des alliances de sang pour pouvoir être protégé et ne pas tout le temps subir la défaite. Et donc, on a un récit qui a été raconté dans un livre qui s'appelle en anglais « The Blood Covenant », l'Alliance de sang, par un monsieur qui s'appelle Kenyon. Et on raconte comment la méthode païenne pour pouvoir sceller une alliance de sang. Alors, on va parcourir rapidement parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le rite de l'alliance hébraïque. Mais par exemple, là, quand Stanley a dû faire alliance, la Bible nous dit qu'il prenait du temps. Il prenait du temps avec un chef d'une tribu qui s'appelait Mirambeau pour pouvoir s'accorder sur d'abord les termes de l'alliance. Mm-hmm. Ensuite, ce qui se passait souvent, c'est qu'ils s'échangeaient des cadeaux. Donc Stanley, lui, un homme de l'Ouest, il a donné une chèvre, alors que le chef de la tribu, Mirambeau, il a carrément donné sa lance. Mm-hmm. Il se dit, mais j'ai dû perdre au change parce que moi, je donne une chèvre et lui, il me donne sa lance. Mais en fait, cette lance était un signe d'autorité.
Et partout, il allait avec... Oui? Une chose intéressante, pardon, c'est qu'en lisant ce livre que j'ai lu hier, en fait, c'est spécial.
Ah, super.
Mais en fait, il raconte aussi parce qu'il trouvait ça, en fait, c'est pas vraiment une échange très, très... plaisante pour lui parce que il y avait un certain souci alimentaire et puis il dépendait vraiment de cette chèvre pour boire du lait. C'était sa seule façon de se nourrir. Et puis c'est spécial quand même. Donc il se retrouve avec cette épée là.
Ouais, il se retrouve avec cette lance. Mais en fait, cette lance c'était un signe d'autorité. Mmh. Et partout où il allait, quand il montrait cette lance, ça lui donnait des ouvertures. Ouais. Donc ça c'était très important. Mmh. Et après l'échange des cadeaux, il prenait une coupe de vin. Et là, il y avait un prêtre souvent qui était entre les deux. Donc, ça pouvait être à nouveau soit le chef ou des représentants hein, qui se mettent ensemble. Et là, le prêtre allait faire donc une incision. L'incision pouvait être au doigt, l'incision pouvait être dans la paume des mains ou dans les poignets. Et là, vraiment, les sangs se mélangeaient et souvent, ça tombait dans du vin. Et après, on mélangeait et il faisait boire. Donc ça, c'est vraiment le rite païen. Hein. On va voir que ça ne se faisait pas dans le rite juif. Et puis, les poignets se mélangeaient ensemble, comme ça. Et les termes de l'alliance, hier, on était dans Deutéronome chapitre 28. Oui. On parlait des bénédictions et des malédictions. Ben, en fait, ça prouve que vraiment une alliance a été faite. Parce que quand il y avait une alliance de sang, en tout cas là, il y avait vraiment un prêtre qui déclarait les bénédictions si nous gardons cette alliance. Et les malédictions si cette alliance n'était pas gardée. Et on avait déjà mentionné dans les émissions que ça pouvait aller donc jusqu'à la mort si cette alliance n'était pas respectée. Oui. Et ensuite, ils sont donc déclarés frères d'alliance. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le lieu où il y a eu l'alliance, à ce moment-là, il y a un mémorial. Il y a un autel où il y a un mémorial pour se souvenir de l'importance de l'acte qu'il y a eu. Donc ça, c'est un petit peu simplement un parcours assez rapide du rite d'une alliance de sang qu'on retrouve de façon en Amérique du Sud, qu'on retrouve chez les Indiens d'Amérique, qu'on retrouve chez les Vikings, qu'on retrouve en Afrique, etc. Et finalement, bah, peut-être au Québec, en Suisse et en France, on est assez éloigné de ces choses. Donc c'est pour ça que ce sujet, il est un peu plus défiant pour nous de pouvoir vraiment rentrer dedans parce que à nouveau, on pense que c'est un petit peu barbare, c'est un petit peu primitif. Mais à nouveau, on voit que dès la Genèse, il y a des animaux qui ont été tués et qu'avec le sang, ils se sont couverts, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui remonte vraiment au tout début. Et après, il y a toujours une forme d'alliance de sang plus ou moins dégénérée. Mais en fait, le rite de l'alliance de sang hébraïque, on avait vu hier avec David et Jonathan, on avait déjà vu que Jonathan, il avait donné son manteau. Et il avait donné son manteau à David. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre les différents éléments du rite et on va voir l'implication pour nous dans la nouvelle alliance. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe, nous parle d'un manteau de justice. Elle nous parle d'un manteau de salut. Elle nous parle d'un manteau de louange. Et Jésus, quand on lit les évangiles, on a vu qu'il avait revêtu un manteau de couleur pourpre. Et finalement, il a pris sur nous notre vêtement souillé. Il a pris sur nous notre proche de justice qui ne sont pas bons pour le Seigneur. Et en échange, il nous a donné son manteau à lui, un revêtement de salut, un revêtement de justice et de louange. Donc là, on voit déjà que si on comprend bien l'alliance hébraïque dans son contexte, à ce moment-là, on peut vraiment apprécier la pleine valeur de ce que Jésus a fait pour nous. Donc ça, c'était le premier élément.
C'est intéressant. Ouais. Et pour les pasteurs qui me suivent aujourd'hui, pasteur Philippe, il y a des pasteurs peut-être qui se diraient, ou peut-être qui ne connaissent pas vraiment les profondeurs de l'Alliance. Peut-être qu'ils ont lu dans la Bible, mais ils ne sont même pas vraiment très connaissants à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu dirais aux pasteurs qui sont réticents aujourd'hui de parler du sang? Parce que je sais qu'il y a des mouvements d'Église qui ont carrément supprimé tous les chants qui mentionnent le sang, où on a même enlevé les croix des Églises, parce qu'on dit « Ah, ça peut repousser les gens, on veut attirer les gens vers nous », et puis le sang repousse. Mais je pense même à Jésus, lorsqu'il parlait aux disciples, il disait « Vous allez prendre... » En fait, son discours semblait être un discours de cannibale.
Ouais.
Et puis, en fait, on lit dans les évangiles que les gens, en fait, ont abandonné Jésus à cause de ce repas, la Sainte Cène, en fait, que Jésus présentait. Mais qu'est-ce que tu dirais aux pasteurs aujourd'hui qui sont comme méfiants, qui ne veulent pas parler du sang de Christ dans leur Église? Parce que c'est un courant qu'on retrouve maintenant où on a abandonné, en fait, plusieurs fondements de la vie chrétienne.
Mais une fois, on avait des visiteurs dans notre église et on a pris la Sainte Cène ensemble. Et le discours des visiteurs, c'était un petit peu « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est une secte ? Parce qu'on parle, voilà, c'est le sang, etc. » Donc, il y a un petit peu peut-être cette réticence de ne pas forcément présenter donc, le pain et le vin en raison des visiteurs qui pourraient croire que « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Ils ne vont pas forcément comprendre. Mais nous devons comprendre que si on enlève le sang, Si on enlève le sang, on enlève l'essence même, on enlève la base de notre foi, on enlève la base du judaïsme, on enlève la base de la foi chrétienne et tout s'effondre. Donc peut-être qu'il faut vraiment l'expliquer et retourner un petit peu dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai que l'Ancien Testament est un petit peu fastidieux. D'un premier abord, c'est pas toujours évident de plonger dans l'Ancien Testament. Mais à nouveau, quand on découvre le contexte naturel dans l'Ancien Testament, on va pouvoir découvrir les vérités spirituelles dans le Nouveau. Donc, ça demande un petit peu de travail et je pense que les pasteurs, c'est aussi le ministère de la parole, c'est ce que nous sommes destinés à faire. Donc, Amen. Peut-être retravailler un petit peu l'Ancien Testament et tirer des parallèles. Comment on va le faire dans cette émission entre l'Ancien et le Nouveau, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance pour voir vraiment la plénitude de ce que Jésus a fait pour nous.
C'est ça. Donc, ce n'est pas une question de supprimer ce qu'on trouve compliqué, c'est de rendre des fois le compliqué et le rendre plus facile à comprendre. Des fois, il faut verbaliser dans des termes,
c'est ça.
Mais il faut présenter tout le conseil de Dieu, parce que si on veut être biblique, moi, je crois que si on supprime, en fait, une portion de l'Évangile, le sang de Christ, on supprime l'Évangile. On supprime ce qui sauve. Donc, ce qu'on retrouve dans plusieurs églises, c'est que les gens viennent à l'église et puis on n'entend jamais parler de péché. On n'entend pas parler du sang de Christ. Mm-hmm. Donc, si on n'entend pas parler du sang qui purifie et on ne parle pas de péché, finalement, les gens viennent, sont confortables, ils arrivent à l'église et puis ils vont sortir de la même façon qu'ils sont rentrés. Peut-être qu'ils vont changer un peu de vocabulaire, peut-être qu'ils vont changer une façon de penser, ils vont s'adapter, mais est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau? Est-ce qu'ils ont vécu le miracle de la nouvelle naissance? Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus, on doit premièrement réaliser que nous sommes pécheurs en chemin vers l'enfer. Si on a un sauveur, et c'est parce que c'est Jésus qui nous sauve de l'enfer, qui nous emmène du royaume des ténèbres, qui nous emmène dans le royaume de la lumière.
Ouais.
Mais pour recevoir la révélation de la nouvelle naissance, on doit entendre parler aussi du péché, que le péché nous sépare de Dieu. Et il y a un texte que j'aimerais lire dans Actes 20, verset 28. C'est l'apôtre Paul qui disait tout simplement aux leaders de l'Église, « Faites soin, ou prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang.
Mm. »
On pourrait parler longtemps là-dessus, mais vraiment, prenez soin de l'Église de Dieu. Dieu nous appelle à prendre soin de l'Église de Dieu, mais aussi, il mentionne l'apôtre Paul, qui devrait être un modèle pour nous, mm-hmm. qui s'est acquise par son propre sang. Donc, l'apôtre Paul parlait du sang de Christ,
oui.
Et en fait, Christ qui est Dieu aussi. Et dans 1 Jean 1,7, il est écrit, « Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Oui. »
Donc, si on ne parle pas du sang de Jésus-Christ, bien, comment est-ce qu'on peut être purifié de tout péché? Donc, finalement, on se retrouve avec des églises des fois qui sont nombreuses parce qu'on a attiré les gens par toutes sortes de programmes, mm-hmm. où on n'a pas dérangé les gens dans leur habitude. Mais au final, est-ce que ces gens sont nés de nouveau?
Oui.
Sans le sang de Christ, on ne peut pas être purifié de nos péchés.
Mm-hmm. Et pour apporter un autre élément de réponse à la question, c'est qu'on a une jeune femme dans notre église qui a écrit un nouveau chant qui est focalisé sur le sang.
Mm.
Et si on veut avoir l'onction et la présence du Seigneur, il nous faut des chants sur le sang.
Mm-hmm.
Parce qu'il faut comprendre que la gloire suit le sang, mm-hmm. ou le sang précède la gloire. Le Saint-Esprit qui est saint ne peut pas venir là où ça n'a pas été purifié.
Mm-hmm.
Donc si on enlève le sang, on enlève la présence de Dieu de nos églises. Si on enlève le sang, on enlève la gloire de Dieu de nos églises. Si on enlève le sang, on enlève l'onction du Saint-Esprit dans nos églises. Et moi, je préférais faire autre chose que de servir le Seigneur dans ces conditions-là.
Et tu sais, Pasteur Philippe, une des choses qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'un culte du dimanche matin, ou peu importe qu'on fait un culte, si vous êtes pasteur, on s'adresse à vous, pensez à ceci. Est-ce que le culte, c'est pour moi? Est-ce que c'est pour les gens? Ou le culte se dirige vers Dieu?
Mm-hmm.
Si le culte se dirige vers Dieu, on se rassemble pour Dieu.
Oui.
Et oui, on peut dire, oui, mais on veut gagner des âmes, on veut évangéliser. Oui, absolument. Mais en fait, si on essaie d'expliquer les choses humaines aux gens, on essaie de convaincre les gens à changer de croyance. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
Mm-hmm.
Donc, on va amener des choses. Les gens peuvent changer des fois des mentalités, mais au fin fond, ils n'ont pas changé. Donc, on met les choses à l'envers. Si on fait un culte pour Dieu, ben la gloire de Dieu descend dans une réunion, l'onction de Dieu descend, et puis les gens qui sont spirituellement aveugles, bien comme on prêche la croix, on prêche le sang de Jésus, le voile est enlevé, les gens peuvent entendre le message d'être sauvés, nés de nouveau, et c'est alors qu'ils vont changer leur façon de penser, parce que là, ils vont être transformés par le renouvellement de leur intelligence.
Oui.
Donc, tout change. Mais je pense qu'on fait vraiment fausse route dans le corps de Christ quand on abandonne, en bout de ligne, on abandonne la parole de Dieu parce qu'on a cru un mensonge. On a cru qu'on ne peut pas atteindre les gens aujourd'hui si on prêche l'Évangile.
Mmh.
On a cru ça, finalement.
Mmh.
Mais c'est un mensonge parce que depuis toujours, pourquoi dans notre génération, on a besoin de changer notre présentation? Pourquoi, depuis des centaines d'années, on a prêché le sang de Christ?
Ouais.
Et une autre chose que je remarque aussi, c'est que le sang, quand on voit le sang, pour nous, c'est répugnant. Et je pense aussi que le sang peut aussi indiquer que, bon, le salaire du péché, c'est la mort.
Mm-hmm.
Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, souvent, implique du sang. Et c'est répugnant pour nous. Et le péché, c'est répugnant pour Dieu aussi. Et je crois qu'on mentionne le sang, on doit dire aux gens aussi, à cause du péché, le sang de Christ a été versé.
Oui.
Et puis, on doit réaliser qu'il y a eu une mort pour qu'on puisse avoir la vie. Il y a eu une mort.
Mm-hmm.
La vie, c'est pas gratuit. Le Seigneur Jésus a livré sa vie pour qu'on puisse avoir la vie aujourd'hui.
Oui, et sans l'écoulement du sang de Jésus, on ne pourrait pas avoir la paix avec Dieu.
Mm-hmm.
Le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Et il a fallu qu'il soit puni à notre place pour que nous puissions être en paix avec lui.
C'est ça.
Et selon la loi de Dieu, on en revient à Hébreux 9, 22, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons établi, c'est la loi divine.
Amen.
Et on a vu donc l'échange des manteaux lorsqu'on fait un rite ou quand on fait une alliance avec quelqu'un. Et on a vu aussi donc, dans la nouvelle alliance que ça représente. On a vu aussi dans David et Jonathan qu'il a donné sa ceinture, il a donné ses armes. Donc, ils échangeaient aussi leurs armes. Et nous avons, en Éphésiens chapitre 6, nous avons l'armure de Dieu.
Ouais.
L'armure de Dieu. Donc, non seulement on a été racheté par le sang de Jésus, mais ensuite, on a toute l'armure de Dieu. Peut-être que ça serait une émission intéressante à faire.
Ouais,
pas forcément avec moi, mais peut-être avec un autre invité. Et on avait vu aussi en Genèse chapitre 15, où Dieu avait dit à Abraham de prendre un animal et de le couper en deux. Donc, il y avait souvent le sacrifice d'un animal. Les parties étaient posées vis-à-vis. Il y avait une ligne de sang qui était là. Et évidemment, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas un agneau animal, ce n'est pas une chèvre, ce n'est pas un bouc, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a été vraiment, qui a reçu donc le et c'est ça, à tel point le péché est grave finalement, c'est qu'il a reçu le salaire de nos transgressions sur lui.
Mm-hmm.
Et non seulement nos péchés, mais Ésaïe plus loin dit, non seulement nos péchés et nos maladies.
Amen.
Et ça, c'est peut-être une révélation que vous avez besoin, que dans la croix, il n'a pas seulement pris nos péchés, il a aussi pris nos maladies.
C'est
ça. Les maladies font partie ou ont été clouées à la croix, et la guérison fait partie du plan de rédemption de Dieu.
C'est vrai, ça.
C'est lié. On ne peut pas dissocier les péchés et les maladies.
Tu vois, pasteur Philippe, une fois, j'étais dans une église et puis j'entendais quelqu'un prêcher en fait sur Ésaïe 53. Et puis, c'était quelqu'un qui ne croyait pas comme je crois aujourd'hui, comme je croyais même à l'époque. Et on peut voir, par exemple, dans Ésaïe 53, je vais lire au premier verset, il est écrit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Au verset 3, « Méprisé, en parlant de Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Le mot « souffrance » ici, en fait, c'est vraiment le mot qui parle de maladie. « C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Mmh. »
Et bien plus tard, dans 1 Pierre 2, 24, nous savons que ce texte-là a été accompli en Jésus-Christ.
Oui.
Par ses meurtrissures, nous avons été guéris.
Oui.
Donc ici, c'était prophétique un jour, oui. Et là, en Christ, nous avons été guéris.
Mmh.
Et j'ai entendu un prédicateur lire ce texte-là et puis ce prédicateur ne croyait pas en fait dans la guérison divine pour nous aujourd'hui.
Mmh.
Et j'étais un peu surpris. Je me suis dit, mais comment il va faire pour ne pas croire que Jésus, que dans le salut, on a la guérison. Et puis, il disait, en fait, ce texte-là nous parle de guérison, oui, mais c'est simplement une guérison spirituelle,
oui.
Pas physique.
Oui.
Mais dans Matthieu 8, 16 et 17, en fait, on peut voir que Jésus confirme vraiment que c'était la guérison physique de la belle-mère de Pierre.
Et dans son ministère terrestre, on a vu Jésus guérir. Il faisait trois choses principales. Il guérissait, il prêchait, il enseignait.
Amen.
Donc, si on enlève la guérison du ministère de Jésus, si c'était central dans le ministère de Jésus, ça devrait l'être dans le ministère de l'Église.
Amen.
Donc,
ce texte-là nous parle justement que Christ a porté pour nous à la croix. C'était prophétique, un jour Jésus était pour porter à la croix vraiment toute la malédiction.
Ouais.
Donc, tout ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, ben, Christ a racheté tout ça et puis il nous l'a donné à nous les enfants de Dieu. C'est ça qui est merveilleux.
Une définition intéressante de la rédemption que j'aime bien, c'est la restauration des droits perdus en Éden. Et du coup, on devrait retrouver non seulement une mentalité d'alliance, comme on le voit, mais aussi une mentalité d'Éden. Genèse 1, Genèse 2, et pas à partir de Genèse chapitre 3.
C'est ça.
Donc là, on a vu qu'ils échangeaient des manteaux dans le rite de l'Alliance hébraïque. Ils échangeaient des ceintures ou des armes. Il y avait un animal qui était coupé. Donc là, on a vu que c'était dans la Nouvelle Alliance le Seigneur Jésus lui-même.
Oui.
Et il y avait aussi donc des cicatrices.
Mm.
Et on avait dit que certaines fois, ils mettaient plus tard hein, peut-être dans le cas des années 1800 et quelques, ils mettaient aussi de la poudre, des armes à feu pour que la cicatrice demeure. Et quand Jésus se présente à Thomas, Thomas insiste pour mettre ses mains là où il y a des cicatrices. Et moi, j'ai une conviction, je ne sais pas si c'est la tienne, mais j'ai la conviction que quand Jésus va revenir, il y aura encore les marques de l'Alliance.
Oui.
Je pense qu'il y a plusieurs textes qui pourraient corroborer cette position, mais comme pour dire qu'il a obtenu pour nous une alliance ou une rédemption éternelle, et il y aura encore la marque de la cicatrice pour prouver qu'il a donné sa vie pour nous. Donc ça, c'est extraordinaire. Souvent, ils échangeaient les noms. Hein, quand un homme et un époux et une épouse se marient, souvent, ma femme a pris mon nom. Et c'est pour ça qu'Abraham, avant que Dieu ne fasse alliance avec lui, il était Abraham. Et après, il est devenu Abraham. Mm-hmm. Et ça, c'est extraordinaire parce que le H, là, c'est le He dans l'alphabet hébreu. Et ça représente la grâce. Dieu lui a fait grâce. Donc, il y a eu un changement de nom. Et nous, dans la nouvelle alliance, eh ben, nous avons reçu le nom de Jésus.
Ouais.
Et il dit, en mon nom, vous allez chasser des démons. En mon nom, vous allez, on revient sur la guérison, imposer des mains aux malades et ils seront guéris. Donc, quand on comprend le contexte historique, on peut vraiment apprécier pleinement les réalités spirituelles qui en découlent. Mmh. Ils échangeaient des cadeaux aussi. Hein, on a vu avec la chèvre, dans le cas de Stanley et Mirambeau, et avec la lance, etc. Nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles.
Ah, oui.
Éphésiens 1:3 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Jésus l'a dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse ma joie. Paul dit que Romains 14:17, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la justice, la joie dans le Saint-Esprit.
Oui.
Et ça, c'est extraordinaire. Il y a aussi le signe de l'alliance. Dans l'ancienne alliance, le signe, c'était la circoncision.
Mm-hmm.
Mais dans la nouvelle alliance, le signe, ce n'est pas un signe extérieur, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, qui est la circoncision du cœur. Et la circoncision dans l'ancienne alliance, ben, ça coupait et ça les mettait à part. C'était un peuple à part. Et ce que fait la nouvelle naissance, Elle fait une coupe dans notre cœur et on commence à aimer les choses de Dieu et on commence à se éloigner des choses mondaines. Donc non seulement elle nous coupe, elle nous sépare des choses mondaines, mais elle nous consacre à Dieu. Et quelqu'un qui a vraiment vécu la nouvelle naissance, il y a une nouveauté de vie qui en résulte. Et on aura la conviction par le Saint-Esprit que si on part dans une mauvaise voie, il va nous remettre sur la bonne.
C'est ça.
Après, il y avait des termes d'alliance, comme on a vu dans Deutéronome chapitre 28, les bénédictions, les malédictions. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle alliance, c'est que des bénédictions.
C'est ça qui est merveilleux.
Nous avons été rachetés de la malédiction. Mmh. Mais nous devons quand même marcher de façon droite et de façon intègre. Ce n'est pas une raison pour partir à gauche, à droite et faire n'importe quoi.
Mais ce n'est pas automatique, non. Une chose qu'on doit dire, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui ignorent leur héritage.
Oui.
Donc, oui, nous sommes bénis en Christ, c'est notre position en Christ, mais la Bible dit aussi, mon peuple est détruit faute de connaissance. Si je ne connais pas que je suis héritier, je peux accepter la malédiction dans ma vie et croire, ah, bien, peut-être Dieu veut que je sois malade parce que je suis ignorant de la parole de Dieu. Ah, peut-être Dieu veut que je sois dans le péché. Je pense que c'est rare que les gens vont dire ça. Mais les gens s'imaginent, peut-être Dieu m'éprouve avec un cancer ou peut-être telle ou telle chose parce que je n'ai pas entendu le message de délivrance. Je n'ai pas entendu que tout a été accompli à la croix. Donc oui, vraiment, nous sommes héritiers, mais on peut être ignorant aussi et ne pas savoir que cela nous appartient.
Absolument. Et nous sommes héritiers. La rédemption a fait de nous des héritiers légaux.
Mm-hmm.
Nous ne sommes pas des excusez du terme, c'est assez fort, mais nous ne sommes pas des bâtards dans le royaume de Dieu.
Mm.
Nous sommes des fils et des filles, et nous sommes des fils légaux.
C'est ça.
Et si nous sommes des fils légaux, nous avons un héritage légal. Mais qu'est-ce que va faire l'ennemi de notre âme? Il va venir contrecarrer cette réalité. Mmh. Et il va venir nous voler ce qui nous appartient à nous.
C'est ça.
Mais si je connais mon héritage, si quelqu'un me vole ma voiture, et sur la voiture, chez nous on appelle ça la carte grise, c'est-à-dire, ça veut dire que ce véhicule appartient à Monsieur Boulanger. Donc si on vole mon véhicule, grâce à ma carte grise, je peux aller vers la police et dire, je peux revendiquer ce véhicule. Et ce que nous devons apprendre à faire en tant que chrétiens, c'est de revendiquer ce qui nous appartient.
C'est ça.
Mais pour pouvoir le revendiquer, il faut le connaître.
C'est ça. Ben oui, absolument.
Et si on termine ici avec le rite de l'alliance hébraïque, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il faisait un repas une fois que l'alliance avait été scellée. Et là, dans la nouvelle alliance, mais qu'est-ce que fait Jésus? Il prend le vin. Il prend le pain. C'est le repas de l'alliance. C'est le repas de la nouvelle alliance. Mais je suis certain que quand tu as marié Mathilde, vous avez échangé des promesses. Et ensuite, il y avait les familles qui étaient là. Vous étiez les représentants de chaque famille. Hein, c'est comme une alliance de sang. Et vous avez certainement fait un repas avec vos invités.
Oui, oui. Hein,
finalement, un mariage, une cérémonie de mariage, c'est, ça suit le rite d'une alliance de sang, tout simplement. Absolument. Et donc, dans la Nouvelle Alliance, c'est ça que Jésus institue. C'est le repas de la Nouvelle Alliance. Mmh. Et en terminant beauté, c'est comme on le disait tout à l'heure, que ce soit le rite païen ou le rite juif, ce qu'il faisait à la fin, c'est qu'on voit souvent Abraham qu'il bâtissait des autels mmh. ou un mémorial pour se souvenir de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Mmh. Donc ça, c'était important. Il y avait un mémorial pour se souvenir de l'alliance qui avait été faite. Mmh. Et le mémorial de la Nouvelle Alliance, c'est la croix. Mmh. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas enlever la croix, on ne peut pas enlever le sang de nos églises.
C'est ça.
Parce que sinon, on enlève le mémorial.
C'est ça.
Et finalement, la Sainte Cène, c'est ça. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le repas de la Nouvelle Alliance. Et le mémorial, c'est la croix qui a été plantée.
Et on pense à 1 Corinthiens 18 qui dit « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Et si on veut vivre la puissance de Dieu dans nos églises, on doit revenir à l'essentiel, on doit prêcher la croix de Christ, même si ça peut déranger les gens. Parce que si les gens ne sont pas dérangés, les gens nous aiment. Pourtant, Jésus a dit « Vous serez haïs de tous ». On ne recherche pas l'opposition, mais la réalité, c'est ça. Si on prêche la vérité, nous ne serons pas populaires. Mm-hmm. Et Dieu ne nous appelle pas à se laisser influencer par le système mondain, mais plutôt c'est à nous de changer notre monde. Vraiment, Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et on ne doit pas se conformer au siècle présent. Ouais. On ne doit pas se conformer. Au contraire, on devrait être différent. Mm. Et les gens vont voir la différence dans l'Église.
Et juste vraiment un verset qui m'a sauté quand tu étais en train de partager, c'est Galates chapitre 6, verset 12, qui nous dit « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Donc, et si on continue dans Galates 6, ici, il y a quelque chose d'intéressant, où il dit « Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. » Référence à l'ancienne alliance. « Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. »
Amen.
Donc, d'être né de nouveau et d'avoir vécu la circoncision de la Nouvelle Alliance.
Gloire à Dieu. Bien, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie, aujourd'hui, vous pouvez le faire. Ça ne prend pas de temps. Jésus a tout accompli à la croix. C'est gratuit pour nous. Lui, il a payé un grand prix. Il a donné sa vie par amour pour vous. Et puis, si vous voulez simplement dire, « Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Prends ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre. Pardonne-moi. Purifie-moi. » Bien, le Seigneur vous reçoit maintenant dans le nom de Jésus. On va se réjouir avec vous. Vraiment, écrivez-moi dès aujourd'hui, videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com, et dites-moi aujourd'hui, j'ai pris cette décision, je cède toute ma vie au Seigneur Jésus et je veux vraiment marcher avec lui. Donc, gloire à Dieu. Merci, pasteur Philippe, d'avoir été à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. On va être bénis demain. Demain, on prend la Sainte Cène ensemble. Ouais. Ça va être un moment puissant dans la présence de Dieu et on va relâcher notre foi aussi pour des percées. Ouais. Si vous êtes malade dans votre corps. Recevez aujourd'hui et demain aussi, on va poursuivre dans cet esprit de foi. On va croire vraiment pour des miracles dans votre vie partout à travers la francophonie. Donc, merci aussi à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.